Le podcast en public, le nouveau film de François Civil, les Oscars, l'animation signée DreamWorks et le retour de N'oublie jamais au cinéma. Voici le programme de la semaine, séance tenante saison 3, épisode 13. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés, l'équipe au complet aujourd'hui autour de la table. Bonjour Lisa.
Salut Alexis.
J'ai parlé extrêmement vite. Bonjour Gaël.
Salut Alexis.
Et bonjour Robin.
Salut Alexis.
Tu as quelque chose à dire par rapport à mon introduction?
Non, c'était très très vite effectivement, très rapide.
Je file comme l'éclair. Comme je disais en intro, on va revenir sur les nouveautés de la semaine avec notre label L'Autre Regard, Pas de Vague avec François Civil, DreamWorks Animation à l'occasion de la sortie de Kung Fu Panda 4. Et d'ailleurs, on fera une petite battle sur est-ce que vous avez un bon souvenir ou non de Shrek. J'ai l'impression.
Bah non.
Déjà, je t'invite
à répondre maintenant.
Je t'invite à parler dans le micro. Car après tout, ce n'est que le 101e épisode du podcast. Donc c'est vrai que. Bon.
J'apprends toujours.
Bah oui,
slow learner.
Madame. Real slow, si tu veux mon humble avis. Et puis voilà. Donc bref, battle sur Shrek. Et on reviendra aussi sur la ressortie d'un film culte. N'oublie jamais le petit bijou avec Rachel McAdams et Ryan Gosling, n'est-ce pas?
Complètement.
Bah, là, là,
Lisa, après, je sais pas ce qu'il a vu autour de la table.
Oui, bien sûr. Film culte.
Pas vu.
Eh oui, parce qu'Alexis m'a fait une confidence, il l'avait pas vu, je crois.
Absolument. Pas vraiment une confidence, je l'ai pas vu, mais oui, en tout cas, bref.
À toi.
Je t'en remercie. On attaque tout de suite par un sujet qu'on n'a pas abordé, mais tout le monde le sait déjà, mais on va le faire rapidement, parce que on l'a fait sur les Césars, ça serait dommage de pas l'avoir fait sur les Oscars, même si la cérémonie a déjà eu lieu il y a 6 ans, ressenti en tout cas. Rapidement, sur les Oscars, vous étiez comment, vous, sur vos pronos? Vous étiez plutôt bien placé ou pas?
J'avais trop misé sur Oppenheimer, mais il est quand même reparti avec pas mal de statuettes. Ouais.
C'est une quote de Christopher Nolan, mais c'est une vraie déclaration de ta part.
Mais je suis Christopher Nolan.
Ah d'accord, pardon.
C'est pour ça. En fait, malgré tout, je trouve qu'il y a un palmarès qui est très équilibré par rapport à des films qui, effectivement, ont mérité leur Oscar dans les catégories. Et derrière, quand même, la victoire écrasante d'Oppenheimer dans l'ensemble.
Et puis surtout, par rapport à des années, je trouve, où il y a eu vraiment des palmarès très compliqués.
Ouais, mais
après, il y en a deux, trois où on peut toujours un peu se dire... Oh.
Là, cette année, je trouve ça quasi parfait, moi. Mais après...
Il y avait quand même peu de vrais concurrents à Oppenheimer et
Pauvre créature.
Et à Pauvre créature. Je trouve que c'était quand même c'était pas gagné d'avance, mais moi j'aime beaucoup Maestro par exemple, mais je trouve que c'est pas.
D'accord. C'est toi.
Je trouve que c'est pas un affront horrible que le film soit reparti sans rien.
Oppenheimer qui repart donc avec toutes les catégories reines, enfin en tout cas meilleure réalisation et meilleur film. 7 Oscar en tout pour vos créatures 4, La Zone d'intérêt 2, Winter Break 1, Fiction américaine 1. Alors, Fiction américaine, c'est peut-être la surprise de mon côté, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit Barbie qui reparte avec.
Pour
le meilleur scénario adapté.
Moi, je m'attendais à Nolan aussi.
Le truc, c'est que oui, en fait, soit Nolan, soit Barbie. Je trouve ça assez curieux que ça parte à Fiction américaine, dans le sens où, c'est, en le donnant à Barbie, ça aurait été l'occasion de le donner à Greta Gerwig.
Oui.
Et qu'elle reparte avec une statuette ce soir-là. Parce que bon, le film, il y avait peu de chances quand même qu'il reparte avec la statuette du meilleur film, vu la concurrence qu'on avait en face. Mais c'est vrai que voilà, c'est curieux. Le garçon et l'aéron, un Oscar. Barbie, il en a eu un pour...
Pour Billie Eilish.
La chanson.
Et oui, j'ai regardé Robin, parce qu'en tant que fan numéro 1 de Billie Eilish autour de la table, je m'attendais à ce qu'il saute sur l'occasion. Et Godzilla Minus One, un Oscar aussi. Anatomie d'une chute, bien sûr.
Ouais.
Oui. Oscar du meilleur scénario. De quoi vos pronos, globalement?
Plutôt content.
Sans surprise, je suis assez d'accord avec Gaël.
Moi, je crois que je suis à 15 sur 20. Hein.
J'ai pas fait le compte exact.
J'ai fait le compte, mais j'ai fait des pronos trop rapides.
C'est Lily Gladstone, moi, qui...
Qui t'a étonné?
Ouais.
Ah, moi, j'avais les 4 acteurs. Meilleur acteur, meilleure actrice, second rôle, d'accord, dans les deux cas. Meilleur film. Mais non, là où je me suis pas mal planté, c'était sur, je crois, les décors, les costumes.
Mais c'est là où Pauvre créature est venu à tout prix, en fait.
Ouais, absolument.
Ce qui
après,
est d'un
quand,
côté mérité.
Quand tu vois le film,
Ah non, mais le film est sublime, attention. C'est juste que je pensais... Je parle pas de mes choix personnels dans les 15 sur 20. C'est vraiment ce que je pensais qu'il allait gagner.
Mais Lily Gladstone, t'as été étonné finalement
qu'elle ne l'ait pas,
tu ouais, l'ai pas. Je pensais vraiment que.
Bah, je
pensais vraiment
moi, je me suis dit, il n'y a plus de suspense étant donné que Emma Stone, des Golden Globes jusqu'aux Oscars, oui, a raflé
un peu le risque, hein.
Oui,
la statuette.
Mais tu vois, c'est comme ce qu'on disait sur Anatomie d'une chute et Le règne animal. C'est-à-dire que je pensais vraiment que l'époque était au triomphe de Gladstone à ce moment-là. Quoi.
J'ai revu le film, justement. J'avais plus revu depuis sa sortie le jour de la cérémonie, pour tout dire. Et malgré tout, je trouve que le film, il est quand même basé sur le point de vue de DiCaprio et De Niro. Bien sûr, et elle passe un petit peu pour secondaire.
Dans la deuxième partie du film, elle est secondaire.
Et même pour tout le film, elle a presque un rôle de personnage secondaire, malgré tout. Et ça, je pense qu'au-delà de sa performance qui est excellente, ça la dessert quand même. Quand tu vois à côté Emma Stone, qui est de tous les plans de Pauvre Créature,
oui, bien sûr, bien
je
sûr.
Pense qu'on a quand même le point de vue du film qui fait que ça a fait la différence.
Ça a été, enfin, c'est ce que Justine Triet disait quand elle a eu l'Oscar. Elle a dit c'est une victoire, mais c'est aussi une campagne. Il y a aussi ce fait-là de, aux États-Unis, est-ce que tu as été assez mise en avant ou est-ce que tu t'es assez mise en avant aussi ? Emma Stone, elle a quand même le contrôle de la production. Elle a rôle principal aussi dans Pauvre Créature, ce qui fait qu'il y a aussi quelque chose de l'engouement limite politique en fait, des Oscars là-dessus. Et je pense que ça a aussi joué en sa faveur. Même si elle mérite complètement son Oscar. Hein.
Je sais que Maestro, par exemple, sur cette idée sur cette histoire des campagnes, je sais que Maestro, ils n'ont pas fait campagne.
Oui, c'est un peu ça. Donc aussi. Vraiment, vraiment.
Est-ce que c'était pas en se disant justement, on est un peu perdu, enfin c'est un peu perdu d'avance par rapport à la quantité de.
Je sais pas.
Tous ces gens en face. Bref, en tout cas, j'ai l'impression que cette cérémonie a été déjà il y a mille ans. Bref, autre sujet dans l'actu, mais alors c'est déjà complet, donc c'est impossible de réserver aux places, mais on a quand même envie de vous en parler. Pourquoi ? C'est en se tenant en public. Pour la première fois à Paris au Pathé Alésia, ça sera le mardi 2 avril, la semaine prochaine. Donc, on va partir à votre rencontre et à la rencontre de l'équipe du film Nous les Leroys avec Florent Bernard qui sera parmi nous. L'idée, donc, c'est un enregistrement du podcast avec l'équipe du film à la suite de la projection que le public viendra de voir. C'est donc déjà complet. Bravo à tous, vous avez réussi à déplacer les foules. Bravo Lisa.
Merci.
Oh, bravo Robin.
Merci.
Et bravo Gaël.
Moi, j'ai mobilisé
Alexis.
Toute ma commu. Hein.
C'est vrai. C'est vrai que toute ta commu a été mobilisée, en tout cas dans toutes les rues.
Les fanzous, hein, comme j'aime les appeler.
Bien sûr, les fameux. Tu es allé coller des affiches comme ça dans tout Paris.
Exactement.
Guérilla marketing. Aïe, 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 on va te rattraper. Mais en tout cas, donc déjà complet, je disais, mais on vous fait gagner deux places pour l'événement. Ce sont vraiment les deux dernières places. Hein, rendez-vous compte. Elles valent cher. Hein. C'est-à-dire que même pour ta famille, Gaël, il n'y en aura pas. Si, allez, je vais t'en mettre une de côté, va. Pour tenter de gagner ces deux places que nous faisons gagner, c'est très simple. On vous demande un petit avis positif sur Apple Podcast, sur Spotify. Un petit 5 étoiles avec un avis gentil, votre avis sur le podcast. Ah bah alors du coup, si c'est votre avis sur le podcast et qu'il n'est pas gentil, vous le gardez. Mais en tout cas, un 5 étoiles avec un gentil mot pour le podcast. Et ensuite, vous nous envoyez un petit MP sur Instagram, sur l'Instagram de Pathé France, en mettant le pseudo que vous avez utilisé pour publier ce commentaire. Et on fera un tirage au sort le vendredi 29 mars. Dépêchez-vous donc dans l'actualité. L'actualité chaude, les sorties de cette semaine, on vous parle pour commencer de notre label. L'autre regard, c'est Pas de vagues, un film réalisé par Teddy Lucie Modeste avec François Civil.
On a parlé de séduction, qui passe par la flatterie. J'essaye de créer un lien avec eux. On étudie Ronsard. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire ?
Le poème parle d'amour, de séduction, de désir. Qu'est-ce que je dois faire, moi ?
Pas de vagues, ça raconte quoi, Lisa ?
Ça raconte l'histoire d'un professeur de français qui est interprété par François Civil, qui est très engagé dans ses cours envers ses élèves et qui, un jour, on ne sait pas comment, va se retrouver en fait accusé de harcèlement par une de ses élèves. Et c'est comment, en fait, Pas de vagues va montrer l'engrenage qui se met en place autour de lui parce qu'il veut prouver son innocence, mais en même temps cette administration qui est complètement démissionnaire, qui va pas forcément l'aider et dont le seul mot d'ordre c'est de ne pas faire de vagues, d'où le titre du film. Et c'est comme ça, c'est cet engrenage un peu malsain, sous tension aussi, parce que le film a quand même un assez gros rythme, je trouve. Et voilà, et comment ces destins vont un peu s'entrechoquer, quoi.
Un film coécrit par Teddy Lucie Modeste et Audrey Diwan.
Ouais.
que l'on connaît notamment
de l'événement.
De l'événement. Ouais. J'ai tendu la main vers Robin, mais il n'a pas pris la balle.
Je laisse Lisa répondre.
Non, Audrey Diwan, je trouve que c'est important de souligner qu'elle est au scénario. Parce que non seulement c'est une très bonne réalisatrice, elle a été passée par la Mostra avec l'événement, elle avait eu le prix. Mais je pense qu'aussi c'est une très bonne scénariste. Et je pense que ce qui fait peut-être aussi la force de Pas de Vague, c'est comment dire son, alors je l'ai dit, son écriture sous tension, mais en même temps cet aspect très comment dire, montrer un peu tous les points de vue et en même temps prendre le parti de montrer surtout celui de Julien, il me semble,
oui,
que ça va comme
Julien,
ça,
ça.
François Civil dedans, de manière hyper pas forcément objective, mais du moins d'adopter un seul point de vue aussi en fait. Et je trouve que c'est une intelligence d'écriture et même limite beaucoup de courage d'adopter le point de vue d'un professeur, en plus avec ce sujet du harcèlement qui peut être un peu fébrile aussi des fois.
Audrey Diwan qui avait entre autres scénarisé forcément l'événement qu'elle avait également ouais. réalisé, elle avait aussi La French,
L'amour et les forêts récemment.
L'amour et les forêts,
elle a eu le César pour
Bac Nord pour et elle fera Emmanuel bien sûr, et L'amour ouf aussi qui arrivera en fin d'année, mais donc Emmanuel qu'elle va réaliser, qui devrait sortir cette année au cinéma.
Il faut préciser que c'est un fait divers réel.
Absolument.
En fait, que c'est basé sur un vrai fait divers, que le prof a été innocenté d'ailleurs.
Mais c'est
depuis.
Le réalisateur en personne.
Ouais,
hein.
ouais, ouais, pardon. Et oui.
C'est une anecdote assez importante. Je m'attendais à quand est-ce que tu vas recoller les wagons. Ça n'arrivait pas. Du coup, je me suis permis une petite.
Non. Et voilà. Écoute, non, c'est tout ce que je savais à
voilà,
dire.
Pardon, non, mais. Oh, je me suis dit, j'ai assez de temps de boire une gorgée d'eau.
Non,
vraiment, même pas. J'ai failli m'étouffer. C'est tout.
C'était mon petit.
C'était son billet d'humeur.
Mon petit trivia. le Wikipédia.
Ah, bah là, le trivia, il était impec. Mention spéciale. Ça a l'air bien, oui. Mention spéciale à François Civil. Je trouve qu'il est brillant dans le film. Je me demande, c'est pas un de ses meilleurs rôles.
Ouais, et puis.
Parce que c'est vraiment un film qui porte à lui tout seul. Ce qui est au final assez rare dans sa carrière quand on regarde ses précédents films. Forcément, là, on a en tête de manière assez fraîche Les Mousquetaires quand
même. Oui, et puis même avec Five, tout le côté comique qu'il avait au début c'est de ça. Sa carrière. Peut-être effectivement. Oui, ce que tu dis est juste dans le sens où c'est intéressant en fait de le voir dans un rôle plus cinéma d'auteur, avec effectivement ce film qui est complètement centré sur lui. Enfin, quand je disais qu'il y avait une multitude de points de vue, c'était plutôt le film est centré sur lui,
bien
et
sûr,
en même temps,
clairement.
Il y a toute cette, on va dire, galerie de personnages, que ce soit l'administration ou les élèves, qui vont graviter autour de lui et qui vont chacun avoir leur point de vue et leur sensibilité par rapport à l'affaire, en fait.
Absolument.
Mais donc, c'est vrai que c'est ça qui rend le film très riche, en fait.
Quand on pense à sa filmographie, enfin là, pour l'avoir sous les yeux, c'est vrai que il y a eu Encore, il y a eu Les Trois Mousquetaires. Il y a eu Bac Nord, forcément. Tout ça, c'est des films, ceux qui nous lient, Le Chant du Loup, etc. C'est des films, soit ils partagent l'écran avec
des autres stars françaises.
Avec,
ouais.
avec une femme, par exemple, si c'est une comédie romantique, je pense à
Anna Girardot.
À mon inconnu, oui. Alors, mais oui aussi.
Et
avec
Joséphine Japy.
Exactement. Le film avec Girardot,
deux
c'est
mois.
Deux mois, tout à fait. Ou alors, en effet, avec Five, encore, Le Chant du Loup, où c'est vraiment un film de groupe, bande,
ouais.
où
ouais,
il y a beaucoup
vrai.
De casting. Là, c'est vrai que. Je regarde Burnout éventuellement, le dernier
oui,
film
vrai,
où il était, le film de Yann
Gozlan.
Est-ce que c'est pas le dernier film où il était vraiment seul à l'affiche d'un de ses projets? C'est pour ça que je trouve que le fait, parce que depuis Burnout, qui s'est quand même passé un petit temps, Burnout c'était en 2017, on est déjà, je ne sais pas compter, mais ça fait quand même 7 ans, j'ai mis un petit temps, vous avez remarqué, une petite lacune en calcul mental. Mais 7 ans sont passés, et tous les grands films qui ont fait la carrière de François Civil sont passés par là. Du coup, c'est vrai que c'est impressionnant et intéressant, je trouve, de le revoir dans cet exercice où il porte le film. Alors, non pas à lui tout seul, mais c'est vrai qu'il est le personnage principal et que tout va graviter autour de son personnage. Forcément, ça fait penser à La Salle des Profs qu'on a vu récemment.
Ouais.
Le film allemand qui était le candidat d'ailleurs de l'Allemagne aux Oscars. Pour différentes raisons. Le cadre, forcément, le cadre scolaire. Une espèce de descente aux enfers qui est différente dans les deux cas.
Bah, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on sait dès le départ. On pressent que on va assister à un engrenage qui ne peut pas bien se terminer.
Sinon, il n'y aurait pas de film.
C'est ça. Déjà. Et même par rapport au
super
au sujet,
le haut vol. Hein.
J'adore le cinoche. Hein. On peut parler cinoche autant que tu veux. Donne un film, vas-y. Donne un nom de réal. Je te donne un film. Hop là. Robin, pardon, excuse-moi.
Comment est-ce que je reviens ?
C'est intéressant.
Par rapport au sujet qui est convoqué dans les deux cas des films, On sait que la gravité de la situation et tout le système qui est construit autour par rapport à l'enseignement, par rapport au cadre des élèves, tout est là pour nous faire voir que dès le départ, dès la moindre accusation, le moindre soupçon, ça va tomber dans un engrenage qui va ne faire que évoluer et que s'aggraver. Et ça, d'ailleurs, François Civil le porte, comme vous disiez, très bien. Je trouve qu'il y a une retenue dès le début du film par rapport à ce qui se passe et une retenue qui va lâcher juste à des moments clés et qui donne vraiment cœur à sa prestation.
Ouais, je trouve qu'il y a un effet d'acharnement, en fait, sur sa personne. On parlait du rythme ou de la tension, je pense que c'est de ça dont il s'agit. Et après, sur l'écriture, en fait, je trouve que ça ose, des fois, convoquer des questions ou des problématiques, en même temps avec celle du harcèlement, qui est quand même le sujet global du film, sur des choses où on se dit... ils ont osé le mettre dans le film, et en même temps, c'est amené avec une certaine subtilité, je trouve, et un effet de balance qui fait que ça tombe jamais dans du trop controversé ou du trop explosif ou avec une fin un peu trop grandiloquente, quoi. Je trouve que ça reste toujours sur le fil. Et c'est justement, je pense, pour montrer cette tension constante du personnage et l'administration et des élèves.
Tu parles de tension. Moi, c'est vraiment ce qui m'a vraiment pris. On l'a vu en projet en projection avec Robin. Moi, je me souviens que à la fin de la séance, il y a un truc où tu te sens pas très bien, en fait. Il y a une tension qui est incroyable, je trouve. Forcément, ça passe par le scénario, ça passe par François Civil, mais ça passe aussi beaucoup par le montage. Ouais. Il y a un truc dans ce jusqu'au boutisme. On se dit, mais en fait, jusqu'où ça peut aller une situation qui, en fait, paraît si simple à résoudre sur le papier. C'est-à-dire, quand on regarde la situation, bah, il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui ment pas. L'histoire paraît simple, mais il y a une tension qui fait vraiment thriller, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'un thriller dans un cadre comme celui-ci, où au final, il ne se passe pas grand-chose, je trouve ça vraiment, vraiment très, très fort, quoi.
Et comme avec, vu qu'on le mentionnait, la salle des profs, on a cette sensation du huis clos. Les personnages qui sont enfermés dans le cadre du collège, et les quelques fois où ils en sortent, on a l'impression qu'ils peuvent enfin respirer, et en même temps, mais c'est que de là que peut venir le danger, ouais, c'est ça. Le cadre du collège, c'est à la fois un peu l'endroit de sécurité et la prison dans laquelle ils ne peuvent pas sortir, et c'est assez intéressant de voir comment le film joue avec ça. On a pas mal de scènes où on voit le personnage de François Civil qui part, qui quitte la salle, mais qui est quand même retenu par rapport à la crainte de ce qu'il peut trouver derrière la grille, quoi. Et ça, c'est aussi, effectivement, ça va dans cette idée du thriller et du film de tension.
Pas de vague, c'est notre label L'Autre Regard de la semaine avec François Civil. Donc, qu'on ne peut que vous inviter à aller découvrir en salle, également au cinéma dans un registre bien différent. C'est Kung Fu Panda 4, un film de Mike Mitchell et Stéphanie Steen avec les voix françaises de Manu Payet et André Dussolier, un film à découvrir chez Pathé en KDX, Dolby Cinéma et Screening. C'est l'occasion pour nous de revenir sur DreamWorks Animation, Kung Fu Panda et un certain Ogre Vert, je crois qu'il va mettre tout azimut notre cher Robin.
On lance les hostilités envers la saga.
Quatrième épisode de la saga Kung Fu Panda. Donc, toujours avec la voix française de Manu Payet. Quatrième opus. Où on en est chez DreamWorks en ce moment? C'est quoi la stratégie d'animation? C'est quoi la stratégie de line-up du studio en ce moment? On sait que tout le monde a un peu la sienne. Hein. Disney en général, c'est... les Walt Disney Animation Studios en général, c'est un film tous les mois de novembre. Ça sera le cas cette année avec Vaiana 2.
Le surprenant Vaiana 2 annoncé.
Très surprenant. Qui sort un petit peu
au dernier moment.
Mais je te vois déjà partir sur le sujet.
On va pas parler, c'est ça.
quelle image, tu vois. Pixar, on sait qu'en général c'est plutôt un film au tout début de l'été. Qu'en est-il de chez DreamWorks?
DreamWorks, depuis quelques années maintenant, ont pour stratégie d'alterner entre un film original et un film qui fait suite à une saga déjà bien établie comme Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, etc.
Chapoté,
bien sûr. Bah, du coup, Shrek.
commence pas Romain, c'est dommage, ça se passait plutôt bien. Mais oui, en effet, c'est vrai que le chapeauté est devenu sa propre saga.
Tout à fait.
S'il te plaît, les trolls, pour ne pas les citer.
Les trolls, effectivement. Donc, on a eu dernièrement, l'année dernière, on a eu.
Les trolls 3 et. Ruby la Dracaine.
L'année d'avant, on a eu le chapeauté 2, la dernière.
Et les Bad Boys.
Bad guys
plutôt.
Bad guys,
c'est
bad
boys. C'est avec Will Smith. C'est
exactement. Bref, mais oui, en effet, il y a cette stratégie d'essayer d'alterner, de créer des nouvelles franchises.
Et cette année, nous avons donc Kung Fu Panda 4.
Absolument.
Et le prochain film original sera Le Robot Sauvage, le nouveau film de Chris Sanders. Donc Chris Sanders, qui était un ancien réalisateur et animateur de chez Disney, ouais, qui avait fait Lilo et Stitch.
Qui a fait la voix de Stitch. D'ailleurs, je crois que Gaël a envie de vous faire une imitation de Stitch.
Non, Stitch, je ne connais pas.
Ah d'accord, ok.
Non, Chris Sanders, c'est les Croods.
Aussi. Et voilà, une fois qu'il est arrivé chez DreamWorks, il a fait donc les Croods.
D'ailleurs, très bonne, je sais pas ce que tu en penses, mais très bonne bande-annonce.
Oui,
mon ami
effectivement,
robot.
Je l'ai découvert non, pas longtemps.
Mon ami robot, c'était un film d'animation espagnol.
Excuse-moi.
C'était très très bien d'ailleurs.
Super bien.
Non, mais Chris Sanders qui a surtout fait Dragon. Qui a c'est co-réalisé vrai. Le premier Dragon avec Dean DeBlois.
Pardon, j'ai plus Dean DeBlois en tête.
DeBlois, oui, c'est
je suis d'accord, mais il arrive quand même chez DreamWorks et il vient faire le meilleur film du studio.
La réécriture de l'histoire.
Après s'être fait un petit peu débouté chez Disney sur Volt Star malgré lui.
Et il vient faire le premier bon film chez DreamWorks. C'est quand même...
Oula, je vois que ça commence...
Les balles perdues qui balancent là depuis tout à l'heure.
Ça commence à partir, quoi. Alors qu'ils n'en ont même pas...
Il n'a pas rien passé, quoi.
Non, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'inné chez lui.
Il est méchant en fait.
Alors peut-être de manière générale, ça je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose contre DreamWorks visiblement. Du coup,
c'est
là, je sens que ça,
plus, ça bien,
le
non, temps. Les mythologies.
Oui, ah non, mais alors il a même pas parlé de Shrek là. C'est toi qui l'emmène sur Shrek.
J'exagère. Ils ont réalisé Le Prince d'Égypte qui était
absolument fantastique.
Ils ont un line-up génial. Qu'est-ce que tu racontes?
Mais si tu parlais dans le micro aujourd'hui.
Mais non, parce que je m'adresse à Robin qui est à droite là.
C'est absolument fou ça. 101e épisode.
Non, j'exagère. Il y a eu des bons films.
Mais oui. Il met de la pommade. Il met un petit peu de pommade gratos.
Fred Katzenberg, t'entends?
Oui, bien sûr. Bon, oui, je suis pas sûr qu'il ait encore énormément de poids chez DreamWorks, mais en tout cas, on le salue et bravo pour tout ce qu'il a fait chez Disney dans les années 80. Il nous écoutera pas.
Et Shrek.
Et oui. Aussi. Kung Fu Panda 4, quatrième opus donc d'une saga chez DreamWorks. Quelles autres sagas ont eu un quatrième opus? C'est un petit jeu que je vous propose chez DreamWorks.
Shrek.
Tout à fait. Okay. Absolument. Moi j'en ai un autre en
Madagascar,
tête.
Madagascar.
Bah voilà.
Madagascar. Ouais.
Et je pense que c'est à peu près tout. Hein.
Bah il y en a pas.
Déjà pas mal quand même parce que d'autres. En tout ça fait 12 films. Hein.
Attends. Ils ont fait quelle? Il y a quelle autre franchise?
En très grande franchise.
Baby Boss, il y a eu deux films.
Ah oui, Baby Boss.
Il y a eu les trois,
les trois. Croods 2.
Croods 2, absolument.
Dragon.
Et Dragon 3, trilogie.
Dragon 3, t'as raison.
Alors après, si on compte les suites, si on compte les spin-offs, on a deux chapeautés plus quatre Shrek. Ouais. Ça nous fait 6 Shrek.
Mais on a Madagascar.
Et on a Madagascar.
Et les pingouins.
C'est vraiment la catastrophe. Les pingouins, c'est la catastrophe.
Tout Madagascar, d'ailleurs.
Non,
t'es fou. Mais t'es fou.
Le 4,
c'est un chef-d'œuvre.
Waouh,
le 4
c'est un chef-d'œuvre en France.
Mais qui est d'où?
En France.
Alors, comment
c'est
d'où est parti Gaël?
Quelqu'un sait comment on fait pour couper un micro sur la table de mixage?
Remets-moi mon son.
Calmez-vous monsieur. On va venir vous chercher avec des blouses blanches, ne vous inquiétez pas. C'est un chef-d'œuvre le 4.
Moi c'est un film que j'ai adoré, Madagascar.
C'est celui qui se passe en Europe,
en France. C'est ça, avec à Monaco et
avec la gendarmette.
Exactement. Voicé par Frances McDormand de mémoire. Mais c'est extraordinaire parce que c'était des... Moi, ce que j'aime... Bon, enfin, non...
Mais si, vas-y pas...
Si, vous êtes sûr,
bien, t'es sûr, sûr vraiment, bien sûr, on est là pour parler d'animation chez DreamWorks.
Non, mais moi, ce que j'aime chez DreamWorks, c'est les moments où, en fait, ça commence à vriller et où certains de leurs films deviennent carrément des films d'expérimentation, quoi. Et Madagascar 4, c'était le moment où ils s'emparaient de la 3D en essayant de faire des trucs complètement chelous. Et c'est un film qui est presque sous LSD. Moi, c'est un film que j'adore parce qu'il y a une espèce de folie furieuse visuelle qui est à la limite du regardable, mais que j'adore. Hein,
je crois qu'il y a un problème parce que Madagascar 4 n'existe pas.
Ah bah alors, non, mais alors. C'est Madagascar 3 alors.
Je crois qu'il y a un gros problème.
Non, mais alors. Début.
Mais alors, c'est le 3
c'est
alors.
C'est un effet Mandela vraiment extraordinaire. Ça fait
l'inventaire. Madagascar 4 n'existe pas. Mince. Donc je suis d'accord, c'est un chef-d'œuvre. Je suis
3,
d'accord.
C'est-à-dire que Gaël vient d'inventer un film.
Non, en fait, il y a eu les 3 Madagascar, puis les pingouins de Madagascar.
Mais c'est pas ça qui a
faussé. Et donc, tu parlais de
Madagascar
3, bon baiser d'Europe.
Bon baiser d'Europe.
Ah, bien sûr, voilà. C'est ta passion pour James Bond aussi qui fait
mais non,
que...
Non,
juste pour le titre. Chez DreamWorks, on a également donc Dragon, peut-être, donc en effet, leur meilleur...
Ça, c'est déjà...
Dragon
4, extraordinaire.
Le fameux et Dragon, le Dragon 4, en quelque sorte, qui sera la version live du Dragon,
oui,
qui est actuellement...
Le premier live action de DreamWorks.
Absolument.
Mais donc oui, les deux premiers Dragons, chez DreamWorks.
Chez DreamWorks, on a aussi Megamind, bien sûr. On a B-Movie.
Pourquoi tu parles
Oh là là.
Vraiment,
j'essaie d'être exhaustif. J'essaie d'être exhaustif. On a Gang de requins, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nos voisins, les hommes. Nos amis, les hommes, pardon.
Les talons. Stallion. Les talons des plaines.
Bien sûr.
Fantastique.
On a Fourmise. Souris City.
Okay. Oui, alors,
non, alors ça, c'est l'enfer.
On n'est peut-être pas obligé d'être exhaustif. Ça, je vous l'accorde, on n'est peut-être pas obligé d'être exhaustif. Les 5 légendes.
Pas mal.
Les 5 légendes, c'est bien. Vachement
c'est bien. Non, c'est bien les 5 légendes. Mais justement, c'est dans cette période où DreamWorks.
Fais voir ta liste. Parce que là, tu
se réinvente un peu et arrive à proposer des films qui sont plus tournés vers l'émotion, vers le premier degré et l'authenticité, et lâche un peu ce côté de devoir se moquer absolument de tout. Et c'est ce que je reproche un peu dans les premiers films.
Mais ils avaient Gang de requins aussi.
Je l'ai cité.
Excuse-moi, je n'ai pas entendu.
Vous aimez bien
les Croods? Moi, j'aime bien les Croods.
Mais ça, on en a déjà parlé, monsieur.
J'aime bien, mais c'est pas grave. Je te redis quand même.
Croods 4, chef d'œuvre.
J'ai l'impression de perdre le contrôle de cet épisode. je vais vous demander de revenir un tout petit peu sur
Turbo,
le sujet.
Pas
oh là là. Ah non, il y, a... il y en avait un que j'aimais beaucoup. Excusez-moi. Oui, monsieur. C'est Peabody et Sherman.
Oh non.
Oh là là. Peabody et Sherman, super.
Pardon, excusez-moi.
Écoutez, je vais vous demander.
Comme si j'étais pas là.
Et en route,
c'est compliqué parce que votre micro est ouvert. Donc, par la force des choses, moi, je vous entends dans mon casque. Ce qui n'est pas votre cas parce que vous n'avez pas de casque. Moi, j'entends les quatre voix ensemble. C'est insupportable, j'imagine. Ceux qui nous écoutent. En tout cas, j'ai cette image des trois sur leur portable en train de regarder les listes. Je me sens
sur Letterboxd.
Un effort de solitude vraiment qui est assez cuisant. Surtout que Gaël a mon portable dans les mains. Peut-être qu'il est en train d'envoyer des messages.
En plus, je dis Stallion, les talons de la plaine, alors que c'est Spirit, les talons de la plaine.
Bien sûr.
Personne ne me corrige.
Tu es descendu trop bas dans la liste. Là, tu es
Madagascar
dans les téléfilms,
4.
J'ai l'impression.
Chef d'œuvre.
Stallion et Madagascar 4.
Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je vous propose de revenir...
Jean-Michel à peu près, quoi.
Gaël à peu près.
C'est vraiment, c'est tragique ce qui se passe. Je vous propose de revenir dans un temps... On va faire un petit temps calme, peut-être, avant d'aborder, sans plus attendre, au final, donc pas de temps calme, une petite battle sur Shrek, parce que là, je sens que les esprits sont assez animés, sont assez échauffés. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous demande...
vous arrêtez.
Beaucoup de solennité, s'il vous plaît. Là. Soyez respectueux envers les autres, ne jetez rien au visage des autres. En tout cas, on parle maintenant de Shrek, puisque sachez que dans l'équipe, il y a beaucoup de divergences sur est-ce que Shrek est un chef-d'œuvre d'animation ou est-ce que c'est un énorme camouflet, c'est un véritable scandale et un film qui n'a pas... Ouais, je me serais pas permis jusque-là, mais en tout cas, c'est l'idée. Tout de suite, c'est l'heure de la battle.
Non, mais Shrek, c'est pas beau, les gars.
Oui, non, mais il a raison.
Quoi?
C'est laid.
Mais je suis la seule à aimer Shrek, là?
Ouais.
J'ai l'impression que tu es la seule, Lisa, en effet.
Mais Shrek, c'est laid.
Donc, on peut peut-être revenir sur le premier point que vient d'aborder.
C'est que c'est pas beau, c'est que l'animation est ratée.
Alors,
dans les Shrek.
Un peu de contexte, on est à quelle époque? On est au début du
film. Mais tu vois ça avec tes yeux d'aujourd'hui?
Non.
Non, c'est vrai.
Même à l'époque.
Moi, je regarde
même,
ça avec mes yeux de l'époque.
Même quand t'étais gosse
En face, t'as Disney qui enchaînait et t'as Pixar qui arrive. Et je trouve que toute la direction artistique construite autour de Shrek, qui se base justement, et ça... Je peux pas leur enlever, c'est le postulat de départ un peu de la moquerie et de du second degré à travers le prisme classique du conte de fées. Ça, ok.
Ah,
mais
oui.
Du coup, je trouve que les choix qui sont faits, bon, déjà, un ogre, bon.
Ouais, vraiment, il a pas d'argument en fait. C'est juste qu'il
déteste.
Il adore les vampires, mais les ogres.
Bon, dans le film, il y a des arbres.
On reviendra sur l'ogre. Non, mais les personnages humains, les princesses, les humains, je trouve vraiment l'animation totalement à côté.
Tu parlais du Pixar, c'est intéressant parce que Pixar, en fait, la grande idée, l'idée géniale de Pixar. L'idée géniale de Pixar à la même époque, c'est de se dire en numérique, on n'arrive pas. À faire les humains, donc on va faire les jouets. Et c'est vrai que
fourmis,
c'est vrai que ça, pour DreamWorks à l'époque, ils s'en foutent. Moi, ce qui me gêne dans Shrek, c'est mon problème principal, c'est que c'est un film qui a été fait pour de mauvaises raisons.
Oui.
C'est un film qui est nourri par la haine de Katzenberg contre
Alors,
Disney.
Alors, racontons un petit peu l'histoire.
Voilà,
si on revient un peu dans les années 90, chez Disney, donc il y a un renouveau qui est en place depuis 84 avec l'arrivée d'un nouveau board, de Michael Eisner et de Jeffrey Katzenberg et de Frank Wells, très important pour la suite de cette histoire, qui arrive donc tout chez Disney pour sauver Disney, parce qu'au milieu des années 90, Disney est dans un état assez déplorable. Ils arrivent, ils remontent assez vite la pente, puisque dès la fin des années 80, les parcs... d'attractions, les parcs à thème attirent de plus en plus de monde, les films aussi, mais tout ça est un cercle vertueux, hein, c'est le business plan de toute façon de la Walt Disney Company. Les films amènent les films, la télévision amène des gens dans les parcs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. 1989, on a La Petite Sirène. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Jeffrey Katzenberg est en charge de l'animation. Enfin, est en charge du cinéma de manière générale, mais est en charge de l'animation. Il va faire donc ce renouveau, ce troisième âge d'or de l'animation chez Disney. On en avait déjà parlé dans l'épisode spécial, mais il y a La Petite Sirène, il y a Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête. Et j'en passe. Et donc, à la tête de Disney à cette époque, on a Michael Eisner, qui est le président directeur général de la société. Et à ses côtés, on a Frank Wells, qui est donc le directeur des opérations. Et les deux sont très complémentaires, puisque l'un a une vision vraiment très business. Hein. C'est Michael Eisner qui donne les grandes directions de la société. Et de l'autre côté, on a Frank Wells, qui est là justement pour le raisonner, financier. Et qui est vraiment dans la partie purement financière. Et c'était un petit peu déjà le schéma qui existait au début de la Walt Disney Company, avec Walt Disney et Roy Disney, son frère. Walt forcément pour la partie créative et Roy pour la partie financière. Frank Wells meurt tragiquement dans un accident d'hélicoptère en 1994, alors qu'il est aux côtés, d'ailleurs, je crois, dans un autre hélicoptère, je crois qu'il y avait Clint Eastwood, parce qu'on en parlait la semaine dernière, puisqu'ils étaient des buddies, visiblement. Mais bref, en 1994, il disparaît, et à cette époque, Katzenberg, donc, qui s'occupe des films et de l'animation, s'attend à se voir proposer la place de numéro 2, ce qui n'arrivera malheureusement jamais. Pour lui, en tout cas, parce qu'il est considéré... Alors, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est Michael Eisner qui ne voulait pas qu'il y ait trop de pouvoir, etc.
Il y a un livre extraordinaire...
Qui s'appelle Royaume Enchanté.
Qu'on doit conseiller aux auditeurs.
Plus que vivement, qui revient justement sur les années 1984-2004. 10 ans de rêve, 10 ans de cauchemar, hein, grosso modo, pour Disney. Comment?
20,
c'est-à-dire
1984-2004.
Oui, mais de 84 à 94.
Ah oui, pardon, excuse-moi.
Attention, je suis...
Non, mais tu t'as dit tout à l'heure que t'étais pas très fort.
Hein. Ouais, mais là, regarde, c'est ma meilleure. Bref, tout ça pour dire que Katzenberg va donc faire partie de ceux qui créent DreamWorks dans les années 90, puisque DreamWorks s'appelle DreamWorks SKG à l'époque. DreamWorks SKG, c'est Spielberg, S, K pour Katzenberg et G pour Geffen. C'est-à-dire que l'idée de DreamWorks, c'est de créer un nouveau major de cinéma américain. Spielberg serait en charge de la partie de films live, Katzenberg de la partie animation et Geffen de la partie du label musical de DreamWorks. Aujourd'hui, ne perdure que l'animation, qui a eu en effet un succès incroyable, grâce à Shrek en 2001. Puisqu'avant ça, il y a eu beaucoup de films chez DreamWorks, il y a eu beaucoup de films en 2D notamment. On pensait au Prince d'Égypte, il y a eu l'Eldorado, etc. Mais oui, donc pour revenir, voilà, petit aparté terminé sur les raisons en tout cas qui font que Shrek a cette couleur-là de revanche presque sur Disney.
Oui, il l'a toujours dit, c'était une manière effectivement de régler ses comptes parce que il est parti de manière, il est parti dans un mouvement d'humeur, ça c'est sûr, parce qu'il n'avait pas le poste qu'il convoitait. Il est parti aussi vraiment, ça s'est très mal passé. Son départ chez Disney, c'est très mal passé d'un point de vue évidemment humain, personnel et puis financier aussi.
Et d'image.
Et d'image. Et c'est vrai qu'il l'a à moitié avoué. C'est Shrek, enfin, il s'en est jamais vanté publiquement parce qu'il ne peut pas le revendiquer comme tel. Mais Shrek était une manière pour lui de régler ses comptes avec Disney. Et donc, ce qu'il fait dans Shrek, c'est effectivement se moquer du conte de fées, montrer qu'il y a tout le roi. Dans, là, ouais, quand on arrive dans le royaume et on voit que... Voilà.
Avec cette parodie de Small World.
Exactement. C'est vraiment une manière un peu, finalement, un peu basse, un peu mesquine de régler ses comptes avec Disney. Et je trouve, moi, personnellement, c'est toujours ce qui m'a posé un problème avec le film, c'est qu'on voit que le film n'est nourri que d'amertume. Même sa mocheté, je suis d'accord avec Robin, même sa mocheté en fait pourrait se revendiquer. C'est intéressant, c'est un film qui est fascinant parce qu'il y a un geste personnel qui est presque démesuré ou transier, c'est-à-dire régler ses comptes à travers ce truc qui en plus va être un carton. Je veux dire, pour lui, c'est une victoire qui est extraordinaire. Mais je trouve que la proposition de cinéma, sans trop la méchanceté, l'amertume et la petitesse, quoi. Enfin,
et surtout, c'est pas drôle.
Non, mais en plus,
il y a des arbres.
Excusez-nous, Robin, les adultes étaient en train de parler de cinéma et d'histoire, mais en effet, Si je vois que les blagues de paix de Shrek ne font pas voilà, un grand plaisir, j'entends.
En face, on a Pixar qui fait Monstres et Compagnie la même année. C'est quand même délirant de voir la différence de niveau entre les deux.
Déjà en termes d'animation et en termes
De propos, de finesse, en fait, de subtilité. DreamWorks, il y a eu des très bons films et ils vont venir après, je suis d'accord. Dragon et même Le Prince d'Égypte, qui était le premier film 2D qui est touchant, qui est émouvant, qui a la partie musicale dont tu mentionnais, qui est fort. Mais Shrek, oui, c'est vraiment pour moi, ça condense. Un peu le raté de l'animation dans sa façon à vouloir jouer sur tous les tableaux et, alors c'est un peu dit facilement, mais à vouloir paraître cool en se moquant des autres, quoi. Il y a un côté, je trouve, très ringard dès le départ dans la proposition.
Et alors, Lisa, comment tu vas nous défendre ce film ultra ringard?
Moi, je suis plus là, laissez tomber.
Non, mais alors, non, attends, moi, je suis pas viscéralement opposé à Shrek, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour le 2. Pour moi est un très bon film.
Super,
du coup, pour moi, ça, je vous avoue que j'ai pas vu le premier depuis
c'est
assez
moins
longtemps.
Pire.
Oh là, bon, je coupe ton micro. Lisa, pourquoi Shrek, selon toi, mérite d'être défendu contre la diatribe?
Non, quand j'ai découvert Shrek, en fait, je n'étais pas au fait de toute cette histoire et tout ce background de revanche contre Disney. Moi, ce qui me marque avant tout dans le film, alors. Bizarrement, je le trouve très drôle. Alors, est-ce que voilà, c'est juste ça en dit long sur mon niveau d'humour? Je ne sais pas. Mais non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect très référencé en fait et très pop culture. Le fait que tu prennes le contre-pied effectivement des contes pour enfants, que tu fasses de l'ogre le héros, que tu le fasses ressembler finalement à un être humain. On dit qu'il a voulu faire peut-être un pied de nez à Disney, mais en attendant, il y a aussi du Disney là-dedans dans le sens où. C'est quand même une recette, ce genre de choses. Montrer l'humanité d'un personnage qui n'a rien d'humain à la base, même des princes charmants n'ont rien d'humain finalement. C'est des gens qui sont idéalisés, les princesses aussi. Je trouve que finalement, dire qu'il veut faire un pied de nez à Disney, c'est en même temps aussi contre-productif dans le sens où ben, en fait, c'est un peu les mêmes codes et c'est un peu cette recette-là du cinéma d'animation. Après, concernant Shrek et son ton, moi je trouve que ça apporte quelque chose. Il y avait peut-être à l'époque, alors peut-être un peu moins maintenant, parce qu'on est habitué à ce genre de franchise, il y avait quelque chose de l'ordre du... nos parents pouvaient nous emmener, en fait. Il y avait ça aussi, il y avait une double lecture, c'était référencé, comme je disais. Il y avait cet humour un peu vulgaire, mais qui va aussi avec le personnage, finalement, et l'univers. Je trouve qu'il y a une sorte de lâcher-prise, un laisser-aller. On essaye un peu de gratter le vernis du la gentille princesse, le méchant dragon de Disney ou des autres, on va dire, majors de l'animation. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'ordre du renouveau, en fait, au niveau du ton. C'est ça que j'aime. Après, sur le niveau technique, je ne m'y connais potentiellement pas assez pour vous dire comment a évolué depuis ou avant Shrek l'animation. Moi, c'est pas quelque chose, c'est une animation qui m'a jamais choquée, qui m'a jamais dégoûtée pour le coup, mais ça, c'est encore un ressenti personnel.
Non, mais il y a déjà un bond quand même assez fou dans l'animation, seulement quelques années, quand on
voit
son premier Toy Story, qui est déjà très beau, mais c'est vrai que c'est
du balbutiement.
Ouais, il se passe 6 ans quand même entre le premier Toy Story et Shrek, ou même Toy Story et Monstres et Compagnie. Mais c'est vrai que Monstres et Compagnie peut-être frappe plus par sa beauté visuelle, mais qui était aussi inhérente à Pixar et ce qu'ils étaient à l'époque.
Puis même quand tu prends le chapeauté il y a quelques années, tu vois l'évolution d'une saga aussi, c'est indéniable, mais
voilà. Super, moi, d'ailleurs, hein, Dernier Chapoté, qui est le meilleur film Shrek de la saga.
Non,
oui,
non,
vraiment
Shrek,
bien.
Il y a le Shrek 4, enfin, ou le 3 d'ailleurs, je ne sais plus lequel.
Non, mais après, tous les volets de Shrek sont inégaux, je reconnais, mais pour moi, le 1 et le 2 seraient peut-être les meilleurs, tu vois.
Mais moi ce qui... on sera pas d'accord parce que je trouve
mais j'arriverai jamais à vous convaincre, je pense que je n'aurai pas cet argument.
Le 3 me plaisait beaucoup, mais je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant dans ce que tu dis, qui est sur le public visé. Moi, je suis resté très hermétique pendant assez longtemps à l'esprit DreamWorks parce que j'étais un peu réticent à leur humour qui était très teen, en fait. Ça s'adressait, je trouve, les blagues de paix, les machins, etc. Ça s'adressait vraiment aux teen et aux kids qui, tu vois, qui grandissaient avec...
aux ados et aux enfants,
excuse-moi. Excuse-moi, c'est parce que je reviens d'Amérique.
Tu seras traduit, de toute façon, tu seras doublé, hein, pas de panique.
Et je trouve que moi, ça me... Encore une fois, justement, par rapport à l'humour très racé, très malin, très... sharp de que Pixar pouvait utiliser à l'époque. Je trouvais qu'il y avait un truc un peu vulgos.
Un peu lourd.
Un peu lourd chez DreamWorks. Mais j'étais déjà, tu vois, adulte et bien installé quand c'est arrivé. Et donc, c'était un regard qui était déjà un peu biaisé. Mais t'as raison, je pense que ça, c'est un truc que Katzenberg a tout de suite ciblé. Et qui s'est placé, enfin, il s'est placé de manière très volontaire et très affirmée, justement, sur un marché, en voyant ce que faisait Disney, ce que proposait Pixar. Et il a creusé ce segment-là. Mais moi, ça m'a toujours un peu, tu vois, refroidi, quoi. Les blagues, effectivement, les pelles, les trucs comme ça, je trouvais ça lourd. Quoi.
Il est exténué.
Non, mais y a pas, enfin, après, moi, sincèrement, je retiens même pas. Enfin, vraiment,
Madagascar, c'était la même chose.
Pour moi, c'est vraiment une blague.
Le premier Madagascar, c'était.
Oui, je
c'était
vois
un peu
que
ça, quoi.
Oui, mais. Non mais après moi je m'arrêterai pas juste à cette scène dans les marais où de
non, Shrek, j'ai bien compris en tout cas que Gaël et Robin essaient de te réduire à ça mais
non oui c'est ça c'est le seul truc ce que je retiens vraiment c'est toutes les inspirations et les hommages qu'il y a dans cette saga en fait c'est je pense que c'est peut-être ça qui me plaît le plus
du coup
finalement.
Tu vois j'ai l'impression tout qu'elle peut pas exister en dehors de ça en fait qu'elle a besoin justement de dire regardez on se moque de ça
je suis pas sûr qu'elle se moque je suis pas sûr qu'il se moque à chaque fois
pas toujours effectivement mais non, comme si le film avait besoin d'être une réponse à
c'est
son époque
c'est l'animation MTV quand même tu vois
ouais
c'est
tu vois les ralentis Matrix
bah moi j'avoue j'ai été un peu
j'ai un truc où du coup, moi, je suis directement en dehors du spectacle qui est proposé, comme si je pouvais pas m'intégrer, parce qu'en fait, ils essayent juste d'être trop méta dans
de
la façon de faire.
Des clins d'œil aux
c'est ça, et du coup, j'y crois pas, en fait. Je crois
ça,
en rien à ce qui se passe.
J'ai plutôt souvenir de ça sur le premier film, moins sur le 2. Après,
oui,
c'est
le 2, j'ai l'impression qu'il cartonne sur ça, quand même. Hein.
Le 2 était peut-être plus...
Mais moi, j'ai un bon souvenir du 2 pour cette espèce de film d'aventure avec un vrai méchant. Je sais pas, il y a un truc de...
Et même, ça m'y fait penser tout ce qu'on dit. La musique qui est utilisée, c'est tout le temps, du coup, c'est de la musique contemporaine.
Vers Madagascar, la musique de Madagascar.
Non, mais c'est ça.
Ils sont possédés. Je viens de voir.
Non, mais
Madagascar.
Quand,
mais,
quand tu vois les autres studios qui engagent et qui font travailler des immenses compositeurs de musique, symphonie,
et
que là, t'as DreamWorks qui utilise de la musique contemporaine dans un truc du coup qui n'est pas contemporain.
Mais
je trouve qu'il y a une cassure.
Pour le bien ou pour le mal, je trouve quand même
que
c'est quelque chose. Mais pardon,
c'est
pour le bien, je vais le garder à la main. Pour le bien ou pour le mal,
Michel Drucker. Trop proche.
Vivement dimanche. Pour le bien ou pour le mal, je trouve que. En fait, c'est quand même le génie, le flair de Katzenberg d'avoir compris que l'époque allait se précipiter là-dedans. Et que ce truc pop culturel qu'on peut lui reprocher, hein, moi je suis assez d'accord avec tes arguments, Robin, mais je trouve qu'au fond, c'est quand même vers ça que globalement, quand tu regardes le succès d'Illumination aujourd'hui, il est fondé là-dessus.
Ouais, mais avec plus de finesse.
Je préfère Illumination à DreamWorks dans les propositions qui sont faites.
Quand tu vois comment a évolué la franchise Shrek, c'est pas le même. Je dirais que c'est le même ton globalement entre le 1 et le 4, mais tu vois qu'ils vont quand même, ils se sont quand même dégagés de ça petit à petit. Ils ont plus. Je trouve que entre le 1 et le 2, il y a vraiment un amas de références pop culture, même musicales, etc. Je trouve qu'il y en a moins dans le 3 et le 4.
C'est
marrant où je me dis, est-ce que c'est pour ça que je les ai moins aimés? Je pense pas, mais je pense qu'ils ont réussi un peu à se détacher de ça et du coup de le faire de manière peut-être plus subtile ou de manière plus espacée, quoi.
C'est en ça que je suis assez curieux de voir le prochain film. Parce qu'on sait qu'il y a un nouveau Shrek qui est en préparation, qui devrait bénéficier de tout le savoir-faire DreamWorks, même si on sait qu'il y a pas mal de licenciements en ce moment chez DreamWorks et que c'est un sujet, hein, d'ailleurs, ce truc-là. Mais quand même très curieux de voir comment va adapter, enfin comment va se, à quoi va ressembler plutôt un Shrek en 2025-26, on ne sait pas exactement quand il sort.
Justement,
ça va être intéressant de voir, déjà en termes d'animation et en termes de scénario et d'humour.
Bien sûr.
Est-ce qu'on est toujours dans la parodie de quelque chose dans les contes de fées? Parce que c'est un peu aujourd'hui, est-ce qu'on a envie toujours de parodier les contes de fées? Je trouve que le Chapoté le fait brillamment. Utiliser les contes de fées, mais sans se moquer, c'est quelque chose de très premier degré.
Et de très touchant.
Presque mythologique, en fait. Il y a ce truc de, OK, on va utiliser le lore de la mythologie pour.
En fait, ils donnent leur propre version du conte sans dire, regardez, les autres, ils ont fait ça et on rigole d'eux. C'est un peu ça que je reproche à Shrek et que le Chapoté est notamment
Shrek,
deuxième.
C'est un mec hyper toxique pour toi.
c'est
cette relation depuis longtemps.
Il est vraiment toxique à fond. Ouais.
C'est un voisin ultra.
Moi, j'ai pas réussi à m'en détacher encore.
Écoute, on va tout faire pour pour sortir de là.
Sauf si le cinquième est super.
Mais voilà, parce que s'ils vont dans l'esprit Chapoté 2, qui est déjà qui est très beau, Vraiment, oui, l'animation, là, pour le coup, elle est vraiment de qualité. Qui arrive à jouer sur l'émotion, sur la narration, sur le méchant qui est très, très bien caractérisé, qui est effrayant. Hein, il se trouve, il y a plein de petites choses qui m'ont fait oublier même que j'étais devant la saga Shrek. Donc, est-ce que le cinquième va aller dans cette idée-là? Parce que la fin du film, d'ailleurs, ouvrait quand même un peu sur ça. Très curieux de voir et j'espère, parce que depuis, on l'a un peu évoqué, il y a eu Dragon, il y a eu les Croods, il y a eu les 5 légendes, on a eu quand même DreamWorks qui s'est dit, bon, la blague c'est bon, mais on peut aussi aller vers l'émotion, et Dragon, je pense c'est le meilleur exemple.
En tout cas, cette semaine, à l'affiche des cinémas pâtés, retrouvez Kung Fu Panda 4, la quatrième itération des aventures de Po, le panda, bien sûr, au cinéma. Donc, maintenant, revenons sur un événement qui va marquer les cinémas pâtés cette semaine. C'est la ressortie de N'oublie jamais, le film de Nick Cassavetes, avec Ryan Gosling et Rachel McAdams.
C'était un été magique. Noah était un gars de la campagne, Ali, une fille de la ville. Ils se rencontrèrent la nuit de la fête foraine. Ils n'avaient rien en commun. Mais en voyant Ali cette nuit-là, Noah ne fut plus le même.
Tu veux sortir avec moi?
Non.
Non? Ma main glisse.
Bon, d'accord, je sortirai avec toi.
Tu ne le fais pas par pitié.
Non, je veux.
Redis-le.
Je veux sortir avec toi.
D'accord, on va sortir ensemble.
Un film qui ressort donc chez Pathé le jeudi 28 mars dans le cadre des séances Ciné-Hit. Donc ne ratez pas cette séance exceptionnelle dans votre cinéma. N'oublie jamais qui l'a vu autour de la table.
Oui, moi.
Tout à fait.
Tout le monde, Gaël aussi.
Bah oui, mais alors j'étais en train de regarder 2004, donc moi je l'ai vu il y a
Tu l'as vu
20 ans.
En projection presse à l'époque.
Exactement.
Et ben écoute, pareil, ouais. je l'ai vu en 2004. jamais vu. N'oublie jamais, en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce film culte, parce que je sais qu'il est culte, je vois.
Je pense qu'il faut y aller sans rien connaître.
Ah,
de N'oublie jamais. La petite peinture. Non, mais.
C'est vrai qu'il y a. Oui, je vois ce que tu veux dire.
C'est une romance.
C'est une
romance entre deux personnages qui se rencontrent.
Dans les années 40-50.
Voilà, et on suit cette histoire avec les hauts et les bas que ça peut amener, avec des scènes cultes, avec deux personnages brillamment interprétés, mais on va y revenir par Ryan Gosling et Rachel McAdams. Et c'est un peu le début quand même de la nouvelle ère Gosling.
Ouais.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, pour moi, Ryan Gosling, c'est un acteur qui n'existait pas en 2004.
Mais je suis d'accord.
J'ai l'impression qu'Anne Gosling, c'est un acteur qui est là depuis depuis le milieu des années 2010, quoi.
Depuis Drive. Depuis Drive. Et depuis Crazy Stupid Love.
Non,
il y a eu ce combo.
Depuis 2010, pour moi, Ryan Gosling, avant, n'existait pas. Et du coup, savoir qu'il joue dans l'une des comédies romantiques les plus iconiques du cinéma qui date de 2004. Film romantique, qui est de 2004, est ultra étonnant, je trouve.
Je vois ce que tu veux dire.
Comme si il y avait eu ce film-là et qu'après, il y avait un espèce de...
T'avais eu Alf Nelson avant Drive, je crois, où il avait la nomination pour l'Oscar. Donc, il existait un petit peu.
Non, mais attention, il existait sur le plan astral, en tout cas, il était sur la physiquement planète, là, il faisait partie, des gens qui nous entourent.
Et le Club Disney, quand même, il existait vachement.
Oui, le Mickey Mouse Club, évidemment.
Mais c'était pas encore le Ryan Gosling.
Le Ryan Gosling Drive, quoi. On a vraiment le sentiment.
Je suis d'accord, 2010, c'est là la nouvelle ère.
Pour moi, c'est ça, voilà.
En fait, c'est vrai, je suis d'accord.
Mais c'est très égoïste comme sentiment, puisque c'est un point de vue qui est totalement personnel, bien sûr. Et pour nous parler de N'oublie jamais, je crois que Lisa nous a préparé un petit quelque chose, n'est-ce pas?
Tout à fait, on en reviendra, vous n'hésiterez pas à me contredire comme pour Shrek.
Moi j'hésiterai beaucoup car je n'ai pas vu le film. C'est l'heure de la chronique de Lisa.
Et tout, elle serait pas en train de nous tomber amoureux.
Croyez-le ou non, mais quand N'oublie jamais est sorti en 2004, je suis complètement passée à côté. Pareil. Ce n'est que quelques années après, lors d'un chaud après-midi ensoleillé, que j'ai découvert l'histoire d'amour de Noah et d'Ali. Mes copines et moi tentions désespérément d'échapper à la canicule de juillet, mais quel film choisir? Le Cercle, High School Musical, Mémoire d'une geisha. Ce n'est que quand Clotilde passe son doigt dans sa DVD tech et sur N'oublie jamais, et que comme une ado prépubère, je pouffe, c'est quoi N'oublie jamais, qu'Héloïse se retourne vers moi en s'écriant « Quoi? Tu n'as jamais vu N'oublie jamais ?» On tenait notre film. Nous voilà ainsi volés fermés dans le noir, avec le ventilo à fond, lecteur DVD en marche, prêt à regarder ce qui deviendra pour moi l'une des références de la romance. Clo appuie sur play. Hello, m'intime que je vais pleurer. Le plan sur les temps ouvre le film, annonçant un film de Nick Cassavetes sur une adaptation du roman de Nicolas Sparks. Deux heures plus tard, je réalise que j'étais passée à côté d'un long métrage, peut-être pas culte à l'époque, mais qui le deviendra plus tard. En même temps, difficile d'oublier, n'oublie jamais. Difficile d'oublier l'histoire d'amour déchirante de Noah et Dali, la façon La Belle et le Clochard. Leur séparation violente au début du film, la Maison Blanche avec les volets bleus, leur retrouvaille sous une pluie battante, puis le retournement de situation finale autour de la maladie d'Ali et la promesse de Noah de lui dire tous les jours, de lui lire pardon, tous les jours leur histoire d'amour. Désolée du spoil, Alexis.
Pas de mal, c'est dans la bande-annonce. Que j'ai au moins vu avant
préparer cet épisode. On tient là les ingrédients incontournables d'une histoire à l'eau de rose, une histoire d'âmes sœurs qui ont bravé les conditions sociales des années 50 et même Alzheimer pour se retrouver dans la mort. De quoi offrir une bonne chialade à tout le monde, moi compris, mais surtout offrir une ode à l'amour dans un conte à la fois inspirant et terriblement émouvant. Car c'est là-dessus que repose le succès de N'oublie jamais, offrir de la romance, de la légèreté, parler du désir aussi, tout en y ajoutant de l'émotion déchirante dans un film d'époque. Une bonne catharsis pour l'ado que j'étais. Avec les années, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à avoir été séduite par l'univers de Nicolas Sparks. Après le succès en salle de N'oublie jamais, Hollywood s'est tourné vers les romans de l'auteur américain. Ont ainsi suivi les adaptations plus ou moins réussies au succès relatif comme Cher John, Une seconde chance, Un havre de paix ou encore The Last Song avec Miley Cyrus. Pourtant, encore aujourd'hui, N'oublie jamais reste indétrônable. Mais alors, comment expliquer cette passion ? Je le disais plus haut, le film n'a acquis, selon moi, son statut de film culte que bien des années après sa sortie. La raison principale, son casting. Comment évoquer N'oublie jamais sans parler de ces deux stars ? Si à l'époque, ils sont encore inconnus du grand public, le film de Cassavetes, fils, dévoile aux yeux du monde Ryan Gosling et Rachel McAdams. Et oui, avant Ken et Barbie, il y avait Noah et Ali. Les deux acteurs ont acquis une certaine notoriété après N'oublie jamais. Rachel McAdams dévoile ainsi ses talents comiques, notamment dans Lolita malgré moi en incarnant le rôle de iconique de Regina George ou encore dans Serial nos sœurs. Elle intègre des franchises telles que Sherlock Holmes et Doctor Strange et se glisse dans la peau d'une journaliste acharnée du Boston Times dans Spotlight, film qui lui vaudra d'ailleurs sa première nomination à l'Oscar. De son côté, Ryan Gosling en a aussi quelques-unes au compteur, notamment pour son rôle de professeur drogué dans Alf Nelson, celui de Sébastien dans La La Land ou encore pour son interprétation de I'm Just Ken récemment aux Oscars. N'oublie jamais a été un véritable tremplin pour ces jeunes acteurs de l'époque qui, outre le cinéma, ont également impacté la pop culture. Car oui, aujourd'hui, N'oublie jamais, en plus d'être un film culte pour une génération, un plaisir coupable pour certains durs à cuire, c'est aussi un phénomène de pop culture. On se souvient tous de Ryan Gosling et de Rachel McAdams en train de reproduire leur iconique baiser durant la cérémonie des MTV Movie Awards, ou encore des rumeurs sur leur mésentente pendant le tournage avant qu'ils ne forment un vrai couple à la ville. C'est comme si la réalité avait rattrapé la fiction, qu'Ali et Noah étaient là. Cela a forcément entretenu la flamme pendant des années, tout comme la culture internet qui, à coup de parodies et d'eux-mêmes, s'est souvent amusée à détourner certaines scènes, remettant sur le devant de la scène le film de Nick Cassavetes. Cette année, c'est à l'occasion de ses 20 ans, c'est vous dire le coup de vieux que je me prends, que le film revient sur le devant de la scène. On pourra ainsi voir le regretté James Garner dans l'un de ses derniers rôles au cinéma, redécouvrir la beauté de Jenna Rollins, mais aussi le charme de James Marsden. Mais surtout, cette ressortie sera l'occasion pour plusieurs générations de cinéphiles de découvrir ou de redécouvrir un film qui, malgré des défauts qui peuvent sembler mièvres, est un véritable plaisir de lyrisme, une douceur comme on en voit rarement dans le cinéma, une célébration de l'amour dans ce qu'il a de plus fort et de plus beau, un film que l'on n'oubliera jamais.
Merci beaucoup, Lisa. Si ça ne vous donne pas envie d'aller découvrir N'oublie jamais, je ne sais pas, vous avez besoin, enfin. Difficile aussi de penser à Rachel McAdams, sans parler de Game Night. Elle était fabuleuse dans ce film, dans cette comédie, avec Jason Bateman, Jesse Plemons aussi.
Sur des joueurs invétérés.
C'est ça, un film.
Puisque tu parlais des comédies romantiques, il était temps.
Mais oui, il était.
Alors, vous avez je pense qu'il était temps et ma comédie romantique préférée.
Ouais, c'est
vraiment
pas
mal. De Curtis,
About Time.
About Time avec Domhnall Gleeson, ouais. Qui mélange du voyage dans le temps. Qui fait mal. Hein.
Voilà,
qui
fait mal
ah oui, à la fin.
Un peu dévastateur. Hein,
on ne sort pas un thème.
Mais oui, celui-là.
N'oublie jamais, tu n'en ressors pas forcément.
Et N'oublie jamais, il y a un truc moi qui m'a toujours frappé, c'est que c'est quand même aussi une espèce, aussi une lettre d'amour d'un fils à sa mère et à son père, puisque Nick Cassavetes c'est le fils de Gina Rollins et John Cassavetes, et que je pense qu'à travers ce film-là, il raconte aussi l'histoire de ce couple iconique quoi, du cinéma. Et ça m'a, moi, ça m'a toujours touché en fait dans le film.
Et une petite mention aussi parce qu'on parlait de Rachel McAdams avec forcément Ryan Gosling qui a une actualité très prenante en ce moment. Il y a Barbie il y a peu, il y aura The Fall Guy en mai. Rachel McAdams qui a joué dans Are You There God It's Me Margaret, un film qui a fait pas mal de bruit l'année dernière, qui est toujours pas disponible en France.
Ouais. Si, en VOD je crois.
Eh ben top, il est disponible en VOD donc. Merci ouais. Gaël pour ce petit complément d'information. En tout cas, on l'a retrouvé dans ce film-là. Deux acteurs fantastiques dans des rôles qui aujourd'hui ont des carrières assez riches. N'oublie jamais, c'est donc à découvrir le 28 mars dans les cinémas Pathé. Revenons sur les bonnes raisons désormais d'aller voir les films qui sortent cette semaine au cinéma. On commence par Pas de vague. Robin, pourquoi faut-il aller voir Pas de vague au cinéma ?
Pour ce que je disais à propos de l'ambiance du huis clos que le film arrive à donner et à offrir, et à la façon dont il joue avec les endroits où on se croit en sécurité et où on ne l'est pas.
Lise, pourquoi faut-il aller voir Pas de vague ?
Pour une raison qu'on n'a peut-être pas assez évoquée, mais pour le fait que ça, c'est un film qui te pousse à réfléchir sur tout un système, en fait, et qui, des fois, pose des questions qui vont déranger, mais qui ose des fois les poser, même si on n'a pas la réponse. Et je pense que ouais, c'est un film dérangeant, mais peut-être dans le bon sens aussi.
J'ajouterais pour François Civil, c'est très simple, ça paraît évident, mais moi je vous assure, comme si j'avais quelque chose à vous à parier, mais je trouve qu'il livre une de ses meilleures performances, si ce n'est sa meilleure performance dans un rôle-titre. Dans ce film-là, je trouve brillante sincérité et de tendresse. Je trouve qu'il arrive à faire véhiculer ce stress, cette tension tout au long du film, tout en restant au maximum à l'écoute de ses élèves, et je trouve vraiment brillant dans le film. Kung Fu Panda 4. Robin, pourquoi faut-il aller découvrir Kung Fu Panda 4 au cinéma ?
Je dirais pour le propos du film qui fait habilement comprendre que rien n'est éternel et que tout nécessite un changement, même dans les arts martiaux.
Lisa.
Moi, je dirais pour le duo des, enfin le père, le duo de père, qui a une sorte de quête annexe dans le film.
On peut appeler ça comme une quête annexe, en
oui,
effet,
c'est
tout
ça.
À fait.
Voilà,
très bien, je t'en remercie. Moi, ça serait pour la chanson de Jack Black, du générique de fin. Je ne vous dirai pas laquelle.
Ah, pardon.
Magnifique.
On le garde. Baby One More Time, en effet, interprété par Jack Black à la fin.
Oh, la
bon, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'était la synchronisation qui était exceptionnelle. Dans le casque, j'avais les deux voix, c'était magnifique, qui ponctue ce film de manière assez brillante. Jack Black qui interprète donc le personnage de Poe en version originale. Que veut dire d'autre ? Autre prochain rendez-vous dans les cinémas pâtés assez particulier, ça sera le dimanche 31 mars et le lundi 1er avril, avec la projection en IMAX et en 4DX, exclusivement sur ces deux jours. C'est pas nouveau, parce que ça fait pas mal de temps que ça, pas mal de week-ends, il y a des films qui ressortent, enfin, il y a des films qui sortent exclusivement sur certains week-ends. Cette fois, ça sera autour d'Alienoid, les protecteurs du futur, d'être projeté le dimanche 31 mars et le lundi 1er avril. Un petit mot sur Dune, deuxième partie. On vous rappelle qu'il faut aller le voir. Non, il n'y a pas grand-chose.
Robin
qui est sorti des limbes pour nous parler de la bande originale d'Hans Zimmer. Pas de panique. Non, juste pour vous dire que voilà, le film est toujours disponible en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinema. Il faut y aller parce que c'est un
chef-d'œuvre.
Merci. Gaël ne l'a pas dit. Il a détesté le film de Denis Villeneuve.
Mais bref. C'est un peu la BO, là.
Non, on n'a pas les droits. C'est trop risqué.
Il en manque.
Ça devient trop risqué.
Make it the ring.
Bref, merci beaucoup à vous trois d'avoir été là pour parler de ce riche programme. Merci Gaël.
Merci Alexis.
Merci Robin.
Merci beaucoup.
Merci Lisa.
Merci beaucoup.
Et on remercie bien sûr Clotilde et Héloïse, sans qui ton billet n'aurait pas pu exister.
Ouais.
Ni ta merci. Découverte de nous.
Exactement.
On les salue. Si elles nous écoute, en tout cas, nous
bah,
on se retrouve.
Je leur enverrai.
C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. J'ai un petit doute sur le fait d'avoir enregistré les 5 premières minutes.